Hey, bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Vous êtes dans GFP en direct, Georges Fernand Poirier au microphone, et je vous accompagne jusqu'à 18h. On aura une conférence de presse ce soir, spéciale, 17h, pour de nouvelles mesures, pour avoir des nouvelles également sur la vaccination, etc., etc. Donc, conférence de presse qu'on va vous diffuser. On va essayer d'écourter ça, là, on va prendre les principaux points. Et on va écouter de la musique. Les meilleurs succès radio français, anglais et québécois. Vous êtes dans GFP en direct. Il fait 15 degrés à l'extérieur et on annonce 18 pour demain. C'est parfait, une belle température. Et ça fait du bien prendre du soleil. Passez une belle soirée et je vous accompagne. Mettez vos écouteurs, prenez votre téléphone puis connectez-vous sur radiofiatlux.ca.
Boing.
Oui, vous êtes dans GFP en direct et je vous accompagne jusqu'à 18h. Avec une belle température de même, c'est le fun. C'est plaisant. Tout le monde est de bonne humeur. C'est plaisant. Malgré les mauvaises nouvelles, on a des bonnes nouvelles. Ben oui. Le soleil brille pour tout le monde.
Sur la web radio, fiatlux.ca.
Ciao, ciao. You'll know when it happens. You'll feel it. It's a pain.
My ass, I bet.
In your tummy. Like you're full of butterflies.
Yuck.
Yeah, yuck.
Eine Chance, doch können wir sie dann für immer und immer. Und wir sind dann Helden für einen Tag.
Eh oui, David Bowie, version allemande, c'est bon, j'avais déjà entendu, mais ça faisait longtemps. J'écoutais un média cet après-midi, vous savez, je fais beaucoup de zapping, et j'écoutais un média qui nous expliquait, qui nous diffusait un extrait d'une personne qui a été 4-5 mois hospitalisée. La personne a réussi à prendre son téléphone cellulaire, la personne, elle a fait un mois dans le coma. Puis là, elle s'est réveillée dans le coma, puis elle nous expliquait comment est-ce qu'elle vivait ça, dans le coma, puis le délire du coma, puis l'inquiétude. Tu sais, quand t'es dans le coma, tu peux pas parler, mais t'entends. Puis le monsieur, il expliquait que, ben, il expliquait que le COVID, le variant, le virus, c'est pas des jokes. Puis tu sais, quand t'écoutes les purologues puis les radios paniques, là, les radios poubelles, la radio poubelle à Québec, eux autres, ils semblent pas y croire. Puis demain, je vais essayer de vous trouver l'extrait, puis je vais vous la diffuser, l'extrait, où on entend le monsieur qui fait un témoignage, qui est encore hospitalisé d'ailleurs. C'est un monsieur d'une 58, 59 ans. En tout cas, demain, on va avoir plus de... Je vais tenter de trouver l'extrait. Et il a réussi avec son cellulaire à filmer, puis à parler, puis à expliquer son cas, qu'est-ce qui se passe. Puis il nous explique en deux mots, parce qu'il l'a vécu, c'est quoi la COVID-19. Parce qu'il est passé, il était à l'hôpital encore, il est hospitalisé. Après avoir vécu un mois dans le coma, tous les mots que ça engendre, toutes les la problématique. Mais c'est ça, demain, je vais tenter de vous trouver exactement, je vais tenter de vous trouver l'extrait en question. On va continuer d'écouter David Bowie en allemand, c'est bon. J'ai dit con, coudon, ça fait longtemps que j'ai pas écouté. Après ça, on va écouter une bonne toune d'Harmonium, un de leurs premiers disques. Vous êtes sur radiofiatlux.tk, ne manquez pas. À 17h, on diffuse la conférence de presse. Émission spéciale, conférence de presse du Premier ministre du Québec et du ministère de la Santé.
je suis vivant. Chargé par ces mille instruments, il y en avait un pour moi, justement. Il est entré sans rien me dire. L'encre s'est mise à couler dans ma tête et sur un vieux papier. Et il m'a dit de vous dire qu'il n'y a plus rien à dire. Et il m'a dit de vous dire d'écouter. Écoutez le silence qui voudrait bien prendre sa place dans la balance. Se remettre au monde à chaque seconde.
Et oui, un bon vieux souvenir d'Harmonium, un album que j'ai acheté quand il est sorti. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux. Maintenant, on va écouter un artiste qui s'appelle le Soldat Lebrun. Et le Soldat Lebrun habitait Beauport, tout près de chez mes parents. On habitait Beauport à l'époque, dans le vieux Beauport, là. Et puis, le Soldat Lebrun, il a connu mon père. Mon père a été dans l'armée, puis aussi le Soldat Lebrun, il l'a été aussi. Et il y avait la famille Lebrun qui faisait de la musique aussi dans les bars. Les brasseries de Beauport, là, on allait voir des fois la famille Lebrun qui faisait de la musique. Fait qu'on va écouter un bon vieux succès du Soldat Lebrun. Le Soldat Roland Lebrun. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux et les meilleurs succès radio de tous les temps.
Ma vallée, je remarque ça dans tes beaux grands yeux et que ton départ me semble assuré et que tu parais en être heureux. Viens t'asseoir près de moi si tu m'aimes. Ne t'empresse pas de me dire adieu. Souviens-toi de cette belle vallée et de moi qui t'aime tendrement.
Depuis longtemps, ma chère, que j'attends les douces paroles que tu m'as prononcées. Mais hélas, mes espoirs sont flétris quand je pense que tu me quittes aujourd'hui.
Viens t'asseoir près de moi si tu m'aimes. Ne t'empresse pas de me dire adieu. Souviens-toi de cette belle vallée et de moi qui t'aime tendrement. Oh, quand tu seras parti de ma vallée et que les jours auront de la nuit, penseras-tu à mon cœur blessé de la peine que tu me causes aujourd'hui. Viens t'asseoir près de moi si tu m'aimes. Ne t'empresse pas de me dire adieu. Souviens-toi de cette belle vallée et de moi qui t'aime.
Vous écoutez la seule radio indépendante du centre-ville de Québec. C'est Georges Fernand Poirier qui vous le dit, en ondes 24 heures sur 24.
Alors, je vous accompagne jusqu'à 18h, mais à 17h, il y a la conférence de presse du gouvernement du Québec concernant les nouvelles mesures, les nouvelles règles qui vont s'appliquer. Ça va être quoi? Habituellement, quand ça arrive, deux conférences de presse dans la même journée, là, ça commence à être V-Metal un petit peu. Mais on va regarder ça, on va suivre ça, puis bon, coudonc. Faut prendre la vie comme elle vient, hein, c'est la vie. Un peu de philosophie, là, tu sais, là. On va rester à la maison, c'est pas plus grave que ça. Ça va finir par passer, vous allez voir. Avec la vaccination, là, si on vaccine rapidement, plus on va vacciner rapidement, plus vite on va s'en sortir, c'est évident. Mais c'est qui régularise les vaccins? C'est Ottawa qui contrôle les vaccins. Et si le gouvernement du Québec en manque, c'est pas de la faute à Legault. C'est de la faute à Justin. Ben oui, faut allumer, là. J'ai lu ça quelque part, là. Que la cause du ralentissement de la vaccination, là, c'est parce que les vaccins arrivent pas assez vite, puis il y a trop d'AstraZeneca, puis il y en a qui n'en veulent pas d'AstraZeneca. C'est ça, la patente. Ça prend du Pfizer, puis du Moderna. Puis celui qui est fait à Québec, là, il y en a un qui est... Il va-t-il être homologué? Je sais pas, là. Il y en a un qui est fait à Québec, à Saint-Augustin. C'était le docteur Fernand quelque chose, là, qui est décédé récemment, qui avait fondé ça. C'est une Medicago, c'est ça. Medicago. Alors, on va voir comment ça va avancer, cette affaire-là. C'est le printemps et c'est l'émission GFP en direct qui se poursuit jusqu'à 18h et je vous accompagne. J'espère que ça va bien. Vous nous écoutez sur le balcon, dans votre voiture, dans votre camion, d'où que vous soyez, je vous salue. Et la meilleure musique en ville, Radio Fiat Lux, en direct du centre-ville de Québec.
Sur la web radio, fiatlux.ca.
Y'en a qui analysent les chansons que j'écris pour en dégager ma philosophie. Veux-tu même dire que c'est qui leur prend à chercher là-dedans quelque chose de cohérent? Si un moment donné je dis une affaire, ça veut pas dire que je s'apprête, m'en pas dire le contraire. Puis vous savez quoi? Je m'en contrebalance, c'est mon droit le plus strict à l'incohérence. Waouh! J'ai pas de vision de la vie à promouvoir, ni d'opinion politique à faire valoir. Non, je n'érige pas d'édifice théorique. Ce que je chante au public défie toute logique. Ceux qui prennent comme sujet pour leurs travaux d'école les paroles sans queue ni tête de mes tonnes mongoles. On conclut chaque fois que rien de ça n'a de sens, que tout ça n'est qu'un tissu d'incohérence. L'autre jour à la radio, j'étais en entrevue J'ai encore aligné des phrases décousues. J'ai dit rien que des affaires qui tiennent pas de bout. Et fait s'effondrer les côtes des côtes. Mais fuck, si vous voulez quelque chose qui se tienne, baissez vos culottes, donnez-vous la graine. Moi j'en ai mon casque de vos remontrances et je crie mon droit à l'incohérence. Oh yeah. Des propos confus, ceux qui changent d'idée comme ils changent de chemise, ceux pour qui toutes les votes fassent sont permises, tous ceux qui parlent à travers leur chapeau, tous ceux qui sont toujours hors propos, ceux qui font pas ce qu'ils conseillent aux autres de faire. Moi je suis des fautes, moi je suis votre frère. Wow! Oui, mon droit à l'incohérence, je l'exerce. Pis non, j'suis pas un modèle pour la jeunesse. Oh non, j'fais rien pour le progrès social. Moi, j'suis plutôt du genre bien-être social. Quand je sors ma guitare et que je bugle, c'est du gros n'importe quoi jeté à l'aveugle. Un mauvais don de la merde, un fuck you immense, jeté à la face de la cohérence. Wow! Voyez qu'une bouillie vide de sens, une manifestation précoce de démence. Rien à chier, sacré moi patience. Moi j'exerce mon droit à l'incohérence.
Radio Chatelis.
Et oui, vous êtes dans l'émission GFP en direct, édition de ce jeudi soir. Ben oui, on est le 8 avril 2021, comment ça va? Et je vous accompagne jusqu'à 18h avec les meilleurs succès radio numéro 1 de tous les temps.
Quand je suis avec toi,
Oui, c'est de la musique de circonstance. Ben oui, les Beach Boys avec une belle température de même. Alors, je vous accompagne jusqu'à 18h. À compter de 17h, on va écouter la conférence de presse du gouvernement du Québec et du ministère de la Santé concernant l'évolution de la COVID-19 et les nouvelles mesures qui vont peut-être être appliquées. On verra. On va respirer par le nez, puis on va prendre ce relax, puis on va arrêter de se décourager. Là. Un jour à la fois. D'où Jésus, comme on disait dans le temps.
Remember when you were young? You shone like the sun.
Je vous rappelle que dans quelques minutes, on va écouter la conférence de presse sur la situation de la pandémie au Québec et les nouvelles mesures, s'il y a lieu. Dans quelques instants, sur Radio Fiat Lux, vous êtes dans GFP en direct et on passe un beau jeudi soir avec une belle température.
Vous écoutez la seule radio indépendante du centre-ville de Québec. C'est Georges Fernand Poirier qui vous le dit, en ondes 24 heures sur 24.
Bonjour tout le monde, ou bonsoir tout le monde. Bon, d'abord, comme vous le voyez, on est rendu dans une troisième vague. Juste pour situer le contexte, ce que ça veut dire, c'est qu'on a eu une première vague où on a dû confiner. On a eu la fin de la première vague où on a déconfiné. Ensuite, on a eu l'été. Ensuite, on a eu une deuxième vague où on a dû confiner. Puis, ben, dernièrement, la fin de la deuxième vague. Et là, on n'avait même pas eu le temps de complètement déconfiner, qui est arrivée la troisième vague. Donc, tout ça pour vous dire que je comprends les Québécois qui disent « ça fait beaucoup de changements annoncés depuis un an ». Et on peut avoir l'air, effectivement, de changer. Mais la situation change, puis je veux juste vous dire, c'est peut-être une mince consolation, c'est qu'on est à peu près comme partout ailleurs dans le monde. Donc, à peu près partout dans le monde, il y a eu trois vagues. Il y en a même qui disent qu'il y en a une quatrième ou une cinquième, mais nous, on a eu trois vagues. Et donc, on est dans une situation où le Québec n'est pas sur une autre planète. Donc, on n'a pas le choix que de confiner, déconfiner. L'idée, c'est d'essayer de trouver un équilibre. Puis évidemment, quand on confine, c'est pour protéger la santé physique des citoyens. Puis quand on déconfine, bien, c'est beaucoup pour aider la santé mentale des citoyens. Donc, c'est un équilibre qui est fragile. Bon, je veux faire une petite mise au point de dire quel est le rôle de la santé publique. C'est important de préciser, la santé publique nous fait continuellement des recommandations, mais c'est important de le dire, en bout de ligne, c'est nous, c'est moi là, qui va décider. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je m'assume, là, si quelqu'un n'est pas content au Québec, ben il y a une personne à blâmer, c'est moi, OK? Donc, ça, je veux être très clair. Puis, écoutez, c'est pas simple, parce que on le voit actuellement, il y en a qui trouvent qu'il y a trop de restrictions, puis d'autres qui trouvent qu'il n'y a pas assez de restrictions. Donc, quand même que je voudrais plaire à tout le monde, c'est impossible. Puis ça, ben ça vient un peu avec la job quand on est en politique. Et puis, comme le disait Bernard Landry, si tu veux te faire aimer, fais pas de politique, achète-toi un chien. Tu sais, donc, ça fait partie de la job, là, puis moi, je l'accepte, puis j'ai choisi d'être en politique, mais c'est important de le dire, là, moi, je m'assume, je suis toujours assumé dans ma vie, donc, oui, j'ai des recommandations de la santé publique, mais c'est moi, avec Christian, avec notre équipe, qui décide qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on annonce. Donc, ça, je pense que c'est important de le dire. Ceci étant dit, on l'a vu hier, forte augmentation du nombre de cas. Avant-hier, on avait 1270 nouveaux cas. Hier, on a eu plus que 1600. Puis aujourd'hui, on se dirige encore vers ce chiffre-là. Donc, ça veut dire il y a une forte augmentation. Puis là, bien, il faut regarder où est cette augmentation-là. Il y a trois régions, toujours les mêmes trois régions qui nous inquiètent, la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, puis l'Outaouais. Honnêtement, là, dans ces régions-là, puis surtout dans les villes là, de Québec, Lévis, en Beauce et à Gatineau, on peut presque dire là que sur notre rue ou dans notre quartier, là, il y a quelqu'un qui a la COVID. C'est vraiment, quand on dit communautaire, là, c'est partout, puis c'est des gens de tous les âges. Donc, c'est inquiétant, la situation dans ces trois régions. Malgré les mesures qu'on a annoncées la semaine dernière, la situation reste difficile, le nombre de cas reste très élevé. Donc, malheureusement, je vous annonce qu'on va prolonger les mesures d'urgence à ces quatre endroits-là, ça veut dire Québec, Lévis, en Beauce et à Gatineau, pour une semaine de plus. Ça veut dire que ça nous mène au dimanche 18 avril inclus. En gros, les mesures, ben, c'est couvre-feu à 8 heures, fermeture des commerces non essentiels, puis fermeture des écoles, de toutes les écoles, pour une semaine de plus. Vous le savez, c'est vraiment pas notre premier choix, mais la situation est grave dans ces endroits-là. Bon, maintenant, parlons de Montréal et Laval. Bon, on sait, Montréal et Laval, ce sont des régions qui sont très denses, et on n'aurait pu s'attendre à ce que ça explose le nombre de cas à Montréal et à Laval. C'est sûr que ça reste des régions qui ont un taux de contagion élevé, mais on ne voit pas une forte progression pour l'instant. Mais on se dit, là, puis on en discute avec les docteurs, les experts de la santé publique, puis de l'INSPQ, puis l'INS, et puis tout le monde, c'est à peu près unanime, disent « ça va arriver à Montréal puis à Laval ». Donc, c'est quoi le pourcentage de chance? C'est difficile à évaluer, mais c'est possible, puis c'est même, je dirais, probable que ça va arriver. Donc, même si c'est pas encore arrivé, on veut ajouter aujourd'hui des mesures préventives, en fait, une mesure préventive. Donc, sur l'île de Montréal et à Laval, à compter de dimanche, donc on laisse 3 jours aux gens là quand même pour s'ajuster, à compter de dimanche, malheureusement, on va remettre le couvre-feu à 20 heures. Ça veut dire que ça va aider aussi à mieux suivre ce qui se passe dans les maisons, dans les résidences, dans les logements. Puis on espère que ça va nous aider à continuer de résister pendant un certain temps, parce que Montréal puis Laval, c'est très dense. Ça veut dire que si ça commence à exploser, là, ça pourrait rapidement créer des gros problèmes dans nos hôpitaux. Donc, pour l'instant, la situation est sous contrôle dans les hôpitaux, mais s'il y avait une explosion dans les prochains jours, les prochaines semaines à Montréal et à Laval, ça serait inquiétant pour nos hôpitaux. L'autre région qui nous inquiète, c'est l'Estrie. Bon, en Estrie, il faut savoir qu'on part, depuis quelques semaines, on avait très peu de cas. Par contre, depuis quelques jours, il y a une forte augmentation du nombre de cas. Donc, l'Estrie, pour nous, c'est sous haute surveillance. La santé publique regarde ça d'heure en heure. Puis, on peut pas exclure, on se rappelle que l'Estrie, c'est orange, on peut pas exclure que si la tendance se maintient, que la semaine prochaine, on n'aura peut-être pas le choix que de passer l'Estrie en zone rouge. Bon, il y a 3 autres zones, trois autres régions qu'on suit de très près, Laurentides, Lanaudière, puis Montérégie, donc les régions autour de Montréal et Laval. Pour l'instant, quand on regarde le nombre de cas actifs par million d'habitants, la situation est à peu près à la moitié de ce qu'on vit à Montréal et à Laval. Par contre, si on se compare avec des régions plus éloignées, ben ça reste quand même relativement élevé comme nombre de cas, mais c'est stable depuis les derniers jours, depuis les dernières semaines. Donc, on surveille de près ce qui se passe dans ces régions-là. Sinon, mais pendant ce temps-là, la vaccination avance bien. Franchement, là, c'est extraordinaire le travail qui est fait de vaccination. Ce matin, on a commencé à offrir le vaccin AstraZeneca à ceux et celles qui voulaient bien, en toute connaissance de cause, recevoir le vaccin. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je suis content de voir des files d'attente pour aller se faire vacciner. Évidemment, là, c'était la première journée. La santé va s'ajuster pour revenir avec les rendez-vous. Mais je veux dire bravo là, à tous les PDG de CIS, de SUS, tous les organisateurs, ceux qui vaccinent, là, en quelques jours, ils sont virés de bord pour qu'on soit capable d'administrer en parallèle l'AstraZeneca. Là. Donc, bravo, bravo, bravo. Puis je vous rappelle, on est toujours un petit peu chauvin quand on se compare. Et Ben, j'avais une rencontre téléphonique hier soir avec les premiers ministres des autres provinces. Et puis, ben, j'étais bien fier. Là, il y a Scott Moe de la Saskatchewan qui est un petit peu plus haut que nous. Mais le Québec est deuxième province sur les 10 provinces. Puis même quand on regarde le nombre de cas, il y avait certaines provinces qui nous demandaient notre recette. Donc, ça fait du bien avec ce qu'on a vécu l'année passée d'entendre des commentaires comme ça. Donc, bravo à ceux qui vaccinent. Puis s'il vous plaît, quand c'est rendu votre tour, allez vous faire vacciner. C'est le passeport pour la liberté. Maintenant, les prochaines semaines vont être critiques. Quand on regarde ce qui se passe ailleurs, quand on regarde ce qui s'est passé en Europe, quand on regarde ce qui se passe en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, puis même, pas besoin d'aller si loin que ça, quand on regarde ce qui se passe dans la ville de Québec, dans notre capitale nationale, ben ça veut dire que ça peut arriver n'importe où. On n'est pas à l'abri d'une explosion de cas chaque jour qui vient dans les premières semaines. Donc, il faut prendre conscience qu'il y a un danger, qu'on a actuellement affaire à un variant qui est plus contagieux, plus vicieux que jamais, et il faut être plus prudent que jamais. Puis je comprends, tout le monde est tanné là, après un an, là, nous ici les premiers, mais on a fait une bonne partie du chemin, il nous en reste un bout à faire. Donc, je vous demande, soyons solidaires, soyons courageux pour faire ensemble le dernier droit. Good evening, everyone. We see that the third wave is getting stronger. Like many other places in the world, we have to bring back restrictions. I can tell you that I follow the data for each region very closely.
Les gens s'éveillent à l'heure des poules, l'heure des foules. La rue était pleine de soleil, j'ai pris le train de 7h20. Descendu dans un village, sans tel bois, sans tel sapin. J'entends Pico dans son arme, je me sens loin, mais je me sens bien. Laisse-moi prendre venir en ville, tape-moi sur ma tête de bois. Descendu dans un village, sans tel bois, sans tel sapin. J'suis tombé comme un orage, en plein été des Indiens. J'ai rien amené avec moi, juste mon billet de retour. J'ai eu le goût de déchirer, le piquois m'a joué un tour.
Laisse-moi pas venir en ville, tape-moi sur ma tête de bois.
Bon, D'abord, je veux préciser, là, puis je parle souvent avec Doug Ford, nos mesures sont plus sévères ici qu'en Ontario. C'est important de le dire, là, parce qu'ils appellent ça un lockdown, mais à part la ville de Toronto, ben, les écoles sont pas fermées. Il faut dire que là, ils sont en congé scolaire parce qu'ils ont reporté leur congé scolaire. Il n'y a pas de couvre-feu en Ontario. Donc, ça, c'est une grosse différence avec avec nous autres. Ils n'ont pas fermé les entreprises, ils ont fermé les commerces non essentiels seulement. Donc, faut comprendre là que ils en font pas plus en Ontario. Puis pourtant, la situation est pire, toute proportion gardée, en Ontario. Maintenant, comme disait l'autre, on peut pas pelleter la neige avant qu'elle soit tombée. Quand on regarde Montréal et Laval, on voit pas d'augmentation importante. Quand on regarde le nombre de cas ou le nombre de cas actifs, c'est stable, il y a une petite augmentation. Donc, avant de fermer les écoles, là, faut que ça soit grave. Là, on remet le couvre-feu, mais les écoles, si on est capable de les sauver une semaine, deux semaines, ben c'est tellement important pour nos enfants.
D'accord. Une question à propos de la vaccination. On a vu, c'est la folie, là, avec AstraZeneca. C'est un engouement incroyable, malgré la mauvaise publicité de ce vaccin-là. Mais on se rend compte que, pour ce qui est de la vaccination avec rendez-vous, il y a encore beaucoup de plages horaires qui ne sont pas occupées. Est-ce que c'est une question d'organisation? La question est posée à monsieur le ministre de la Santé, monsieur Dubé.
Écoutez, pour être très clair, là, il y a toutes sortes de chiffres qui ont sorti dans les derniers jours, puis je vais clarifier la situation, là, parce que puis je pense que c'est normal que les gens s'inquiètent là-dessus, mais je vais vous dire, là, pour être très, très clair, là, moi, j'ai ce qu'on appelle un tableau de bord qu'on suit tous les jours, puis je vais donner deux chiffres. Cette semaine, là, dans les 7 prochains jours, j'ai 31 000 rendez-vous qui sont ouverts. J'en ai, de ces 31 000-là, j'en ai 9 000 qui sont dans les pharmacies. OK? Donc, c'est aux pharmaciens qui font le travail à tous les jours d'appeler leurs patients, etc. Donc, il en reste à peu près 20 000 qui sont pour 17 régions du Québec. Alors, quand vous prenez 21 000 rendez-vous pour les 7 prochains jours, c'est le minimum de marge de manœuvre qu'on doit avoir pour continuer à prendre des rendez-vous tous les jours. Alors, prenez ça, là, qu'on vaccine en ce moment au moins 300 000 personnes. Fait que d'avoir une marge de manœuvre pour toutes nos 17 régions du Québec, d'avoir 20 000 rendez-vous de disponibles à tous les jours pour que les gens appellent, je pense que c'est le minimum qu'on peut avoir. Alors, puis je vais vous dire, on va être tellement transparent là, que j'ai demandé à ce que ce chiffre-là soit publié tous les jours maintenant. Alors, donc, on va arrêter là de... Moi, j'ai entendu des chiffres de 270 000 rendez-vous disponibles. C'est pas la réalité. La réalité aujourd'hui, là, c'est à peu près 30 000 pour les deux composantes que je vous ai dit.
D'accord. Merci.
Parfait. On va passer avec Alice Girard-Bossé de La Presse.
Bonsoir. En ce moment, à Gatineau, ça peut prendre 2 jours pour avoir un rendez-vous pour un test et plusieurs jours pour recevoir le résultat. Il y a même plusieurs Québécois qui vont se faire dépister à Ottawa puisque le résultat, et ils l'obtiennent la journée même. Que comptez-vous faire pour améliorer le système de dépistage pour contrôler l'épidémie à Gatineau?
Oui. Je vais vous dire, je suis content d'avoir cette question-là parce que je suis pas plus content de ce qui se passe à Gatineau parce que, ben, premièrement, je pense que je l'ai déjà expliqué, mais il y a une partie des choses qu'on doit faire nous-mêmes. On a eu à Gatineau, entre autres, des ennuis d'équipement. Il y a des équipements qui ont brisé, qu'on a dû remplacer, ça a pris du temps. On avait, entre autres, à Gatineau, un problème de personnel. Le problème à Gatineau, dans l'Outaouais en général, c'est peut-être un des endroits où on a le plus de problèmes de personnel qui nous manque. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis ce temps-là? On a fait des corridors de service, entre autres, avec Sainte-Justine ou pour utiliser le laboratoire. On a même envoyé du personnel supplémentaire pour aider l'équipe en place parce qu'on trouvait qu'on avait besoin peut-être de s'organiser un petit peu mieux. Alors, si vous me demandez aujourd'hui, là, entre la situation qu'on a connue il y a, disons, une semaine et versus la situation d'aujourd'hui, il y a déjà une très grosse amélioration. Mais j'en prends la responsabilité. Il y a eu des choses qui sont arrivées qui expliquent ça, mais c'est à nous autres de les corriger et c'est ce qu'on fait en ce moment.
Et dans les derniers jours, les hospitalisations ont augmenté à travers la province. Est-ce qu'on s'enligne pour retourner vers le délestage?
Ben écoutez, moi, c'est ma plus grande préoccupation. Vous avez entendu le docteur O'Patterney ici. Jusqu'à maintenant, on a été capable de l'éviter, c'est-à-dire que on était rendu, rappelez-vous, on publie les chiffres, à peu près à 85 % d'opérations. En ce moment, il va peut-être avoir un peu de délestage qui va se faire en Outaouais, parce que justement, on a un problème de personnel. Mais jusqu'à maintenant, et c'est pour ça qu'on suit les hospitalisations de très proche, j'en vois pas encore à très court terme, mais je vais être prudent dans mon commentaire parce que c'est ça qu'on essaye d'éviter le plus possible. Mais jusqu'à maintenant, on sait à peu près, avec les cliniques privées qui opèrent pour nous, là, on est à peu près à 85 %.
Merci.
On va passer avec Annie Guimette, Cogeco Nouvelles.
Bonjour. Je reviens sur la popularité de la vaccination sans rendez-vous. Avec les prochaines étapes, les prochaines clientèles à vacciner, est-ce que la vaccination sans rendez-vous, c'est une option à ouvrir avec des heures allongées dans des cliniques vraiment de masse, ou vous voulez continuer encore avec une prise de rendez-vous régulière puis le système qui est là actuellement?
Bien, si je peux y aller... Une bonne discussion avec tous les PDG là, dans différentes... je pense que c'est tout le monde qui réagit un peu différemment. Là, je vais vous donner deux réponses. Premièrement, ça a été un vif succès. Fait que je pense qu'on doit remercier les Québécois d'avoir réagi aussi rapidement. Je vais vous dire, mardi, on avait le OK, puis ce matin, on vaccinait. Là. C'est quand même, faut donner le mérite à ceux qui l'ont fait. Mais je pense que ça... Moi, j'ai demandé aux PDG d'être créatif. Dans la mesure où tout le monde a reçu leur proportion de vaccins, il y a des gens qui ont décidé qu'ils ouvraient jusqu'à minuit ce soir. Fait que ça, c'est le genre de réaction là, que j'aime d'avoir, de dire, bon, on est dans une situation de crise. Je pense qu'il y en a plusieurs qui auraient voulu le faire, ils n'avaient pas accès au vaccin. On vient de me dire qu'on a rallongé un petit peu au Palais des Congrès aussi. Donc, j'aimerais vous dire qu'on va apprendre de ça aujourd'hui, là. Que étant donné l'engouement, étant donné que les gens, il y en a qui se disent, ben moi j'aime mieux le faire parce que je veux pas canceller un rendez-vous, puis à un moment donné, c'est, je pense qu'on est en train d'analyser, mais on pensait jamais, je vous avoue, là, même dans mes plus beaux rêves des derniers jours, que je verrais autant de files d'attente, puis un peu ce que le premier ministre a dit, qu'on serait si content. Mais je pense que c'est un peu ce que la pandémie nous apprend, puis je finis là-dessus. Il y a des choses qu'on pensait pas qui étaient possibles, qu'on se rend compte quand on les essaie, et que ça fonctionne. Puis c'est pour ça que je remercie les Québécois d'avoir été si flexibles, puis à nos gestionnaires d'avoir montré autant d'ouverture. J'ai très hâte de voir les résultats demain. Et je pense qu'on va s'ajuster encore une fois au cours des prochains jours. Ça fait partie des meilleures pratiques.
Merci. Autre dossier, il fait très beau, très chaud dehors. Il y a plein de gens qui pensent à leurs vacances. Il y a des parents aussi qui pensent à leurs enfants. L'an dernier, on a annulé les camps de vacances, les camps avec séjour assez tard dans la saison. L'Association des camps demande d'avoir une décision rapide. Est-ce qu'avec la situation qu'on voit, cette troisième vague-là, on est déjà à condamner cette saison-là au profit des camps de jour seulement?
Mais la saison est regardée. Je pense qu'on est très conscient là, qu'il faut préparer ça à l'avance. Les équipes sont en train de le regarder. Ce qui va arriver, c'est qu'on va être plus avancé au niveau de la vaccination. Là. Puis je pense que s'il y a aussi beaucoup de ces camps-là qui font des activités à l'extérieur, il y a des mesures qui pourraient être prises, notamment même avec certains, parce que si c'est des gens qui viennent de l'extérieur, de plusieurs familles, avec le port du masque, etc. Fait qu'on essaie de maintenir cet élément-là le plus possible. N'étant pas Nostradamus, je peux pas vous garantir, là, parce que en pandémie, 48 heures, c'est beaucoup. Il peut se passer bien des choses. Mais disons que les équipes travaillent à essayer de trouver une façon de permettre aux jeunes de se retrouver dans ces situations-là. Là, ça a beaucoup d'effets positifs chez les jeunes.
Peut-être, Mme Guémiot, j'ai juste oublié, pour votre question concernant le sans rendez-vous, mais je veux rappeler aux gens qu'à compter de demain matin, pour l'AstraZeneca, il est sur le site de Clic Santé. Alors, ceux qui veulent aller... Je l'avais dit hier, mais il s'est passé tellement de choses dans les dernières heures. Rappelez aux gens que ceux qui veulent AstraZeneca, soit en pharmacie ou soit dans nos sites de vaccination, ils peuvent maintenant le faire jusqu'à dimanche, soit sans le rendez-vous ou avec les rendez-vous comme d'habitude.
Merci.
Nora Tremblay-Lamontagne du Journal de Montréal.
Bonsoir. Ma question est pour le docteur Arruda pour commencer. Vous avez appris, comme nous tous, le décès d'un homme de 40 ans qui était en pleine forme cette semaine. D'ailleurs, toutes mes condoléances à ses proches. Jusqu'à quel point est-ce que vous craignez que les nouveaux variants entraînent de graves complications, voire des décès chez des jeunes? Et comment est-ce que vous en tenez compte dans vos décisions?
Bon, merci pour la question. Et puis moi aussi, je vais offrir mes sympathies. Tout décès, quel que soit l'âge, est important. Mais disons que ça frappe beaucoup parce qu'on a beaucoup associé les décès et les mortalités seulement aux personnes âgées. Il y en a eu aussi dans la première vague des décès de gens plus jeunes. C'est juste qu'on les voyait moins parce qu'il y avait moins. Heureusement, il y a moins de décès actuellement. Il y a moins de cas. Il y a plus de cas, mais moins de décès. Mais c'est clair qu'avec les nouveaux variants, avec leur grande transmission, certains sont plus à risque de développer, puis certains variants donnent plus de complications. Donc, on va voir ce phénomène, d'où l'importance de maintenir les mesures qu'on fait. La vaccination va devenir, pour les adultes, en tout cas pour les gens en haut de 16 ans, éventuellement 18 ans, une solution importante, mais en attendant, je pense que la meilleure façon de faire, c'est de respecter les consignes, etc. Et bien entendu, la limite pour est associée au fait que c'est avec beaucoup de vaccins qu'on va être en mesure de rejoindre le maximum de personnes. Mais ça demeure encore important, à mon avis, de protéger les plus à risque actuellement. Je ne veux pas dire que le risque est égal à zéro, mais ça démontre que, et je tiens à vous le dire, même si vous êtes vacciné, là, faut pas relâcher les mesures pour avoir une protection. Il faut porter le masque, garder la distanciation de 2 mètres, puis l'hygiène. Ça fait que c'est ça là, qui va être l'approche, mais on sait qu'il va en avoir.
Ma deuxième question, vous ramenez le couvre-feu à 20 heures à Montréal et à Laval sans aucune autre mesure supplémentaire. Est-ce que c'est parce que vous croyez que c'est le couvre-feu à 21h30 qui explique la flambée des cas qu'on a vus à Québec et à Lévis, entre autres?
Non. Écoutez, c'est une mesure qui est préventive. C'est certain que le couvre-feu aide à réduire les contacts. Je pense que c'est une évidence. Maintenant, on veut pas aller du côté de la fermeture des écoles pour l'instant. Donc, je pense que c'est comme un geste qui va nous aider sans créer des problèmes énormes. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment prendre des marches le soir, puis il y a des gens qui finissent de travailler tard, puis on va accommoder ceux qui doivent être accommodés, mais il reste que je pense que ça va aider, et puis c'est préventif. Comme je disais, pour l'instant, on voit pas d'explosion de cas à Montréal et à Laval, mais les experts nous disent ça pourrait arriver dans les prochains jours. Donc, on veut s'assurer que ça, si jamais il y a une augmentation, que ça se fasse le plus doucement possible pour aider nos hôpitaux.
Merci.
Véronique Dubé, TVA Nouvelles.
Bonjour. D'abord, j'aimerais savoir, à Montréal, on n'a pas hésité à faire un projet pilote pour vacciner les gens dans Côte-Saint-Luc quand on s'est aperçu que ça flambait. Ça a très bien fonctionné. Pourquoi ne pas opérer la même stratégie? Vous parlez beaucoup d'agilité, Monsieur Dubé, ces derniers jours. Pourquoi pas utiliser la même stratégie à Lévis, justement, à Gatineau, pour éteindre les feux, alors qu'on sait très bien que les travailleurs essentiels ne seront pas vaccinés de sitôt? Alors, que faire qu'autrement qu'à dire aux gens de respecter les règles sanitaires? C'est quoi la solution?
Bien, premièrement, je vais laisser Dr. Arruda en parler parce que je pense qu'il faut être certain qu'on a les bons résultats de ce projet pilote-là là, qui a été mené effectivement par le Dr. Drouin qui, je veux lui mentionner, là, qui fait un excellent travail à Montréal en ce moment de garder le couvercle sur la marmite, là. Mais j'aimerais ça que le docteur Arruda commente. Mais pour les travailleurs essentiels, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que à compter de demain, donc les gens du groupe 9 peuvent commencer eux aussi à réserver sur Clic Santé. Alors là, on parle encore une fois des professeurs, des policiers. Fait qu'il y a une question d'être capable de les vacciner. Il y a un mois, on pensait pas qu'à cette date-ci, on serait rendu déjà au groupe 9. Alors, donc, je veux juste vous dire qu'il y a une combinaison de vaccination et de projets pilotes sur ce qu'on fait en ce moment. Mais j'aimerais ça que Dr. Arruda vous donne un commentaire sur l'état d'avancement du projet avec Dr. Drouin.
Il faut comprendre que le projet pilote de Côte-Saint-Luc, ça a été un projet pilote qui doit être évalué. On est en train d'attendre les éléments d'évaluation. Ça a été, il y avait de la disponibilité de vaccins à Montréal. Il y avait une situation particulière très concentrée dans deux territoires avec une communauté particulière. Donc, à ce moment-là, on a voulu voir et on va évaluer le projet. Il faut comprendre que il y a une démonstration qu'on a réussi à contrôler, parce que quand vous dites que ça va bien être, il faut qu'on mesure les éléments là pour être sûr. Mm-hmm. Parce que quand on fait cette stratégie-là, on a, avec une quantité limitée de vaccins, on ne protège pas certaines personnes qui sont encore à risque. Fait que là, la question va être de voir l'évaluation, puis à mesure, si jamais ça démontre que c'est efficace, et à mesure que les vaccins vont rentrer, puis qu'on aura avancé dans les groupes les plus à risque, ça pourrait être une stratégie. Mais la stratégie de vacciner pour empêcher la transmission intensive dans des milieux reste à démontrer. Et c'est pas nécessairement exportable d'un endroit à un autre. C'est des communautés plus... je voudrais fermer ou moins ouverte sur d'autres communautés où ça peut fonctionner.
OK, parfait. Ma question va aller au premier ministre maintenant. Tout à l'heure, quand vous avez commencé le point de presse, vous avez senti le besoin de défendre M. Arruda en disant que vous étiez le seul à blâmer. Cette fois-ci, est-ce que c'est vous qui avez pris la décision d'étendre les mesures? Est-ce que c'est la direction de la santé publique? Puis pourquoi vous avez senti besoin de lancer ce message-là?
Bien, j'ai entendu des commentateurs hier dire qu'on se lançait le blâme. On est ensemble, puis on discute, puis on reçoit des recommandations à chaque jour, puis on en discute. Puis souvent, pour arriver au même objectif de protection, il y a plusieurs solutions pour y arriver. Il y en a qui sont plus applicables, il y en a d'autres qui sont moins applicables. On travaille ensemble, mais en bout de ligne, c'est moi qui prends la décision finale, puis je l'assume totalement. Il y en a qui ont peut-être interprété que je mettais le blâme sur les changements à la santé publique. Écoutez, la santé publique, là, je l'ai dit hier, j'aime bien mieux qu'ils changent d'idée que par orgueil défendre absolument ce qu'ils ont dit la semaine passée. Moi, j'adore ça, qu'ils me disent, voici aujourd'hui, avec toutes les informations que j'ai, voici mes recommandations. Puis donc, on en discute. Puis bon, je dirais que...
aujourd'hui, c'est vous?
Aujourd'hui, il y a une partie que ça vient de moi. Ouais.
Merci.
Parfait. On va passer à Zachary Goudreau, Le Devoir.
Bonjour, messieurs. Pour revenir sur les écoles, vous avez dit pour l'instant, la situation est pas assez grave là, pour justifier de les fermer. Si on peut les garder 2-3 semaines ouvertes, on peut... Mais est-ce que c'est donc dire que c'est inévitable là, qu'elles vont fermer les écoles à Montréal?
C'est pas inévitable. Et puis, c'est évidemment une des premières questions qu'on pose quand on a des rencontres avec l'INES, avec l'INSPQ. Quelles sont les probabilités qu'on se rende jusqu'au mois de juin sans avoir à fermer les écoles à Montréal? Et j'aimerais ça qu'il y ait une réponse claire, noir sur blanc. Mais, ils ont de la difficulté à mettre des pourcentages. C'est pas impossible qu'on réussisse à se rendre jusqu'au mois de juin. Mais c'est pas impossible non plus qu'on soit obligé de fermer les écoles pour être capable de contenir la troisième vague. Ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, c'est très important de le dire, pour l'instant, il n'y a pas d'explosion de cas à Montréal et à Laval, même si le nombre de cas reste élevé.
Et on a vu le directeur général de la STM, Luc Tremblay, qui a vraiment déploré le fait que ces employés qui sont sur le terrain, chauffeurs d'autobus, employés d'entretien, font pas partie des travailleurs essentiels. Il est revenu là-dessus aujourd'hui, vraiment ému, là, je dirais. Pourquoi on les a pas inclus dans ce groupe-là, là, des travailleurs essentiels qui vont pouvoir se faire vacciner et tout?
Bon, le terme d'ailleurs, travailleurs essentiels, c'est un terme qui est très, très, très large et qui donne... C'est pas parce que les gens sont pas essentiels, là. L'analyse qui a été faite, là, dans le contexte où il y a une limite de vaccin, est vraiment basée sur, un, le risque de que ces personnes-là fassent la maladie et aient des complications et soient hospitalisées. Ça, c'est la première des choses. C'est pour ça qu'on a utilisé les groupes d'âge puis certains travailleurs. Le risque que ces personnes-là, en travaillant, exposent des personnes vulnérables, ça, c'est une chose. Et puis, les endroits où on a eu des éclosions, les endroits où on a vraiment documenté là, que c'était des milieux de transmission, il y a toute une série de travailleurs essentiels qui sont pas encore dans cette catégorie-là. Ils vont être rejoints à travers un élargissement de la vaccination. Puis on comprend très bien, hein, parce que, d'ailleurs, le terme « travailleur essentiel », là, dans les faits, on devrait dire « travailleur à haut risque de complications » puis « travailleur à haut risque dans des milieux où il y a eu énormément de propagation ». Je pense que ça représenterait mieux la situation. Et ça, là, ça n'a pas été fait seulement par la santé publique, ça a été fait avec des cliniciens aussi, puis la santé publique, puis on dit, quand on regarde le risque des personnes d'avoir des complications, quand on regarde les milieux qui ont été touchés, c'est ça l'ordre. Et c'est comme ça qu'on a suivi.
Merci. Avant de passer en anglais, on va prendre les deux questions de journalistes francophones qui sont sur la plateforme. On va débuter avec François Carabin du journal Métro.
Messieurs, j'aimerais poursuivre sur la question de mon collègue sur les écoles, la première qui a été posée. Comme il le mentionnait, vous avez dit plus tôt qu'avant de fermer les écoles, il faut que ce soit grave, Monsieur Legault. C'est quoi grave dans les écoles? Là, il y a 250 éclosions actives dans les écoles. C'est quoi grave? À quel moment?
Ben écoutez, d'abord, comme je l'ai expliqué, puis je veux pas avoir l'air de mettre sur les épaules de la santé publique les décisions, parce qu'en bout de ligne, c'est moi qui prends les décisions. Mais actuellement, on a une recommandation de la santé publique de fermer les écoles à Québec, Lévis, Beauce et Gatineau. On n'a pas de recommandation de la santé publique de fermer les écoles à Montréal et à Laval. Mais, comme le dit souvent le docteur Arruda, ça se peut que la semaine prochaine, on vous arrive avec quelque chose de différent. Mais pour l'instant, la santé publique est... le gouvernement, on ne juge pas qu'à cette étape-ci, pour l'instant, que ça soit nécessaire de le faire à l'extérieur là, des quatre sous-régions que j'ai mentionnées.
Merci. Puis j'aimerais revenir sur les annonces d'aujourd'hui, surtout en ce qui a trait à Montréal et Laval, M. Legault. Là, vous venez de créer, en quelque sorte, une autre zone rouge. Là, on a des zones rouges... plus pâle, des zones rouges Montréal-Laval, puis on a les zones d'urgence que vous avez annoncées la semaine dernière. Est-ce que c'est toujours la stratégie à adopter, là, la carte des régions, zone orange-jaune? Comment vous comptez faire là pour que les Québécois continuent à suivre tout ça?
Donc, grosso modo, c'est au lieu de... Tout devait réouvrir le 12, donc c'est reporté au 18 avril, grosso modo. C'est à peu près ça qui se passe. Et puis, on attend d'autres nouvelles pour la fermeture possible qu'on a dit. On a la santé publique qui recommande la fermeture des écoles. On verra bien qu'est-ce qui va s'en suivre. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux. Dans l'émission GFP en direct. Et moi, je vous souhaite une belle soirée. Un beau jeudi soir, avec une belle température, on va aller prendre des petites marches. Et je vous donne rendez-vous demain matin, 8h AM, en direct du Studio B, l'émission GFP en direct. C'est Georges Fernand Poirier qui vous dit salut, à demain matin, 8h AM.
Si tu l'as, tu l'as, elle a, elle a.
Web radio fiatlux.ca.
Seulement le goût de décrocher. N'oublie pas ton nom, ton adresse, ton rendez-vous. Arrive à l'heure, fais bien ton show, fais pas trop le fou. Souris plus fort, durcis ta peau. Sorte et défense, tous dans le même bain, c'est pas aussi simple que tu le penses. Tu penses à t'en aller sur une plage ou en voyage. Tu penses à embrasser celle qui t'attend depuis longtemps et te pardonne. Petite noirceur d'adolescent vont s'en aller. Garde ta froideur, apprends à vivre
cesse de chialer. Suis-moi du front, cherche plus tes mots, range tes orages. Tu te révoltes avant que ta chanson fasse naufrage. Alors je trace avec mon doigt un grand carré, c'est du sein. Je tape du pied, j'élève la voix, c'est la musique, c'est mon haleine. Plusieurs visages dans la fumée, les projecteurs sont allumés. Un chant d'amour pour nos lendemains, garde-moi en face, tends-moi la main. Mes veines comme ces fils électriques, mon cœur dans ces grands haut-parleurs. Un souffle par la mécanique, les nerfs tendus dans la chaleur, les mots pressés de débouler. Encore une fois, la carte est jouée, que le spectacle continue toujours. La survivance, c'est une simple chanson d'amour. Les poings serrés qui se relâchent. Calme un peu, cette échelle à gravir t'en vois plus le bout, t'as seulement le goût de décrocher. Jusqu'au sud et jusqu'au nord.
Quand la nuit se réveille, l'espoir me parle à l'oreille. Quand la nuit se réveille, l'espoir me parle à l'oreille.
On lèvera nos verres à la hauteur des montagnes. On proclamera la liberté. De nos tavernes, des clameurs qui annonceront dans la nuit notre fierté.
Quand la nuit se réveille, l'espoir me parle à l'oreille. Quand la nuit se réveille, l'espoir me parle à
mes yeux, les chants des nous rendent pleins de désir et les éclater nos corps d'amour.
Des grandes musiques vont germer du bout de mes doigts et vont te prendre et te saouler. Si on osait devenir des géants,
grass. The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me.
There is no dark side in the moon, really. Matter of fact, it's all dark.